Matin, j'aimerais conclure notre série que nous avions intitulée « Comment être saisi par le Saint-Esprit en 2009 ». On s'était entendu dès le début de cette série qu'à l'Église Vie Abondante, ce que nous désirons, c'est juste du frais. Je ne sais pas si vous l'avez dit au Mexique que vous désiriez juste du frais, l'équipe, là, mais peut-être qu'il y a eu des moments où vous vous dites « ça aurait été bon ». On a vu ensemble dans cette série que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une ambiance, n'est pas un fluide, n'est pas tout simplement un nuage, une nuée, n'est pas une colombe, n'est pas du feu. Le Saint-Esprit est une personne. Et j'ai partagé avec vous, le fait que ce soit une personne fait en sorte que ce n'est pas quelque chose qu'on essaie de saisir, le Saint-Esprit, mais c'est qu'on laisse le Saint-Esprit nous saisir. Une grosse différence entre les deux. Il y a beaucoup de milieux, particulièrement dans le milieu pentecôtistan, on essaie de saisir le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit est une personne. C'est le Saint-Esprit qu'on doit le laisser nous saisir. J'ai partagé avec vous pendant le cours de cette série que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et ce que j'ai expliqué à ce moment-là, c'est tout simplement que lorsque l'Esprit de Dieu nous parle, c'est rare que c'est de façon explosive, de façon éclatée, de façon éclatante. Mais la plupart du temps, le Saint-Esprit vient nous parler dans notre âme, dans notre esprit, très clairement, mais très discrètement. Et il faut être à l'écoute. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. De plus, on a pris aussi le temps de comprendre ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Et je vous ai expliqué le fait que le baptême du Saint-Esprit est une seconde expérience distincte de la nouvelle naissance et que le signe initial de cette deuxième expérience, est le signe initial, ce sont les langues qui nous sont données. On se met à parler en d'autres langues. On a vu, pour supporter cela, le point de vue historique. On a vu également le point de vue biblique. On est parti à partir de Jean-Baptiste jusqu'à la résurrection de Christ. Et par la suite, dans un autre message, on est parti de la résurrection de Christ jusqu'à la fin du livre des Actes, pour voir que partout où on imposait les gens aux malades, on imposait les mains aux gens, et les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Et tout de suite, il y avait une évidence extérieure qui faisait en sorte que les gens pouvaient voir et constater, il y avait une confirmation que les gens étaient remplis du Saint-Esprit. La plupart du temps, c'est mentionné qu'ils se mirent à parler en d'autres langues. D'autres fois, dans le livre des Actes, c'est sous-entendu. Donc, on a vu ça et on a vu que le baptême du Saint-Esprit, le but de ce baptême de puissance, c'est vraiment de nous confier une puissance dans le but de poursuivre le ministère de Jésus sur cette terre. C'est la seule et unique raison, c'est dans le but d'avoir une puissance pour poursuivre le ministère de Jésus. En d'autres mots, ce que je suis en train de dire ici, c'est que ce que Jésus a fait, chasser les démons, guérir les maladies, amener la guérison chez les gens, c'est exactement ce que nous sommes appelés à faire, chacun d'entre nous qui sommes des enfants de Dieu. Mais pour ce faire, on a besoin d'avoir la même puissance que Jésus avait pour accomplir le ministère. Amen. Et le dimanche matin, le 21 juin dernier, c'est le matin où on a pris le temps de prier pour plusieurs d'entre vous qui désiriez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et alors que je priais pour certaines personnes, j'ai été témoin des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit ici, qui se sont mis à parler en d'autres langues pour la première fois. Et c'était vraiment particulier. Et ce dimanche matin-là, je me suis permis un peu plus, en tant que pasteur, de l'attitude, et je me suis permis de parler en d'autres langues, même dans le micro, afin que vous puissiez entendre les langues que j'ai reçues de la part du Seigneur lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et lorsque j'ai fait cela, les gens m'entendaient, vous m'entendiez dans la salle parlant d'autres langues, et j'ai reçu un courriel le dimanche après-midi, le 21 juin 2009, de quelqu'un de l'Assemblée, et voici ce qu'elle m'a écrit concernant le fait que j'ai parlé en langue dans le micro et qu'elle m'a entendu parlant d'autres langues. Elle a dit ceci: « Je voulais te dire que ce matin, vers la fin de l'appel, alors que tu priais en langue dans le micro, je t'ai clairement entendu parler en espagnol. » Pas pire l'équipe, hein? C'est-à-dire que si je partais là-bas et je parlais en langue, ils me comprendraient, semble-t-il. Je ne parle pas espagnol en passant. Donc, j'étais clairement entendu parler en espagnol pendant une partie de ta prière. Tu as dit « Eso no lo quitaré », ce qui signifie « Cela, je ne l'enlèverai pas. Cela, je ne le retirerai pas. » Ce qui, pour moi, concorde tout à fait avec la promesse que Dieu nous a faite, c'est-à-dire qu'il nous a donné son esprit comme un cadeau précieux et qu'il ne nous retirera pas. Et il nous a scellés par son Saint-Esprit. Que Dieu soit glorifié pour l'œuvre qu'il fait. Amen. J'ai hésité avant d'apporter cette anecdote-là, mais il y a des gens à qui je l'avais partagé. Il dit, faut que tu l'amènes à l'Église pour que ça puisse les encourager. Donc, le baptême du Saint-Esprit et les langues nous sont donnés pour poursuivre le ministère de Christ. Il y a 3 semaines, la dernière fois où j'ai prêché, j'ai apporté aussi un processus. J'ai partagé un processus pour bien gérer les révélations de Dieu. À savoir que lorsque nous recevons une révélation de Dieu, qu'il nous parle, en passant, Dieu parle encore en 2009 de façon évidente. Pour tous ceux et celles qui veulent vraiment entendre sa voix, Dieu parle. Mais lorsque Dieu parle, on doit apprendre à interpréter ce qu'il nous a communiqué pour bien appliquer la parole qu'il nous a donnée. Donc, c'est ce qu'on a vu, en gros, dans notre série sur le Saint-Esprit. Loin de moi l'idée de croire qu'on a touché tous les sujets concernant la personne du Saint-Esprit, mais quand même, c'était des sujets et des thèmes, je crois, qui étaient pratiques et qui peuvent nous aider à se laisser saisir par la personne du Saint-Esprit. Donc, ce matin, on conclut cette série de messages sur la personne du Saint-Esprit. Saviez-vous que dès le 2e verset de la Bible, on voit que l'Esprit de Dieu est présent et actif? On peut lire dans Genèse, chapitre 1, verset 2, « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, c'est-à-dire des eaux, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Un jour, j'aurai l'occasion d'apporter un message sur le mystère biblique qu'on appelle communément la Trinité. Et un jour, j'aurai l'occasion de prêcher là-dessus, mais pas ce matin, mais quand même, on va voir quelques aspects ce matin. D'ici à ce que j'ai l'occasion de prêcher sur ce mystère extraordinaire de la Trinité, j'aimerais tout simplement terminer ma série sur le Saint-Esprit en tentant de bien équilibrer un aspect important qui concerne la personne du Saint-Esprit. Vous savez pratiquement tous que la Bible nous enseigne qu'il y a à la fois Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et que ces trois sont une seule et même personne, mais en même temps trois personnes, mais c'est une seule personne, c'est un mystère, la Trinité. Toutefois, on a l'impression que le Saint-Esprit est plus près de nous, puisqu'on dit que le Saint-Esprit vit en nous. N'est-ce pas? Quels sont ceux et celles qui sont reconnaissants pour l'œuvre de l'Esprit dans leur vie? Amen. Je suis certain que je pourrais vous demander de lever la main, donner un témoignage. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a déjà fait dans votre vie? Est-ce qu'un jour il vous a convaincu? Est-ce qu'un jour il vous a parlé? Est-ce qu'un jour il vous a repris? Est-ce qu'un jour il vous a averti? Je suis certain qu'il pourrait y avoir des dizaines et des dizaines de témoignages. Voici ce qui s'est passé dans ma vie. Comment le Saint-Esprit m'a parlé? Comment le Saint-Esprit m'a consolé? Comment il m'a donné une révélation de Dieu incroyable? Il m'a donné de saisir la pensée de Dieu. Et c'est exactement son rôle. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit dirige, il console, il convainc, il transforme, il régénère, il avertit, il sanctifie, etc. Le Saint-Esprit est pour ainsi dire l'agent exécutif de la Trinité, c'est-à-dire que c'est lui qui accomplit la volonté de Dieu le Père. Donc le Saint-Esprit joue un rôle extrêmement important dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est pourquoi on a l'impression que le Saint-Esprit est plus près de nous. Mais cette impression, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est plus près de nous, peut occasionner des problèmes majeurs dans notre vie chrétienne. Et pour bien comprendre où je veux en venir ce matin, j'aimerais juste vous parler de 2 aspects importants du mystère de la Trinité. La Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, n'est pas, premièrement, le premier point à réaliser. Le Saint-Esprit, la Trinité n'est pas une hiérarchie. Tout le monde sait c'est quoi une hiérarchie? C'est-à-dire des niveaux d'autorité. Ce n'est pas Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils sont égaux, ils sont égaux tout simplement. C'est 3 personnes en une, ils sont de pas une qui est plus importante que l'autre. Il n'y a pas de hiérarchie dans la Trinité. La deuxième chose à comprendre ce matin sur la Trinité, très rapidement, c'est que la Trinité n'est pas séparée par la distance. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a souvent tendance à voir que le Saint-Esprit vit en nous et que Dieu est au ciel et que Jésus est à la droite de Dieu. N'est-ce pas? Et on pense des fois, ou des fois même dans notre façon de parler, on a l'impression que c'est comme si le Saint-Esprit, des fois, il faut qu'il lâche un coup de téléphone à Dieu le Père pour savoir ce qui se passe ou ce qu'il doit faire. Si c'était si simple que ça. Mais la Trinité, c'est plus complexe que ça. La Trinité, c'est que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, à la fois sont trois personnes et une personne, ils ne sont pas séparés par la distance. Ils sont toujours en communion les uns avec les autres. Avant même que la terre n'existait, avant même que nous soyons créés en tant qu'êtres humains, il y avait une communion, et c'était la Trinité. C'est un mystère qui, je ne sais même pas si rendu au ciel, on va comprendre ce beau mystère. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, la Trinité n'est pas une hiérarchie. Ils sont sur un pied d'égalité et ils ne sont pas séparés par la distance. Ils n'ont pas besoin de se téléphoner pour communiquer. Ils sont toujours étroitement reliés. Ceci étant dit, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que c'est seulement le Saint-Esprit qui vit en vous? Répondez pas, OK? Faites juste réfléchir. Avec ce que je viens de vous dire, est-ce que c'est seulement le Saint-Esprit qui habite en vous? Jésus a dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Si quelqu'un m'obéit, moi, Jésus, et mon Père, on va aller faire notre demeure chez cette personne-là. On peut lire dans un autre texte de Romains, de l'apôtre Paul aux Romains, et là, je ne vous appelle pas à tout comprendre ce que je vais lire là, mais faites juste retenir les termes qui sont soulignés et remarquez à quel point on retrouve toutes sortes d'expressions pour parler de la même chose, c'est-à-dire la même personne, la personne du Saint-Esprit. On ne fera pas l'exégèse de ce texte-là ce matin. Romains 8, versets 9 à 11, ça dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Comme j'ai dit, on ne fera pas l'exégèse de ce texte-là. Si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas grave. Okay? L'important, ce qui est important de saisir ici, c'est comme il y a des synonymes. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, si Christ est en vous, si Dieu est en vous. Donc ici, c'est très clair que, en fait, ce qu'on est en train de voir, de réaliser, ce n'est pas seulement l'Esprit qui vit en nous, et que Dieu le Père est au ciel et que Jésus est à droite de Dieu. Et c'est la Trinité qui vit en nous. Donc, des trois personnes qui composent la Trinité, le Saint-Esprit est celle qui, avec qui on a l'impression d'être le mieux connecté. Toutefois, on comprend maintenant que ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui habite en nous, mais c'est vraiment la Trinité. Ceci étant dit, j'en arrive à mon application ce matin. Avez-vous déjà remarqué, écoutez bien cette question, avez-vous déjà remarqué que dans toutes les Écritures, c'est-à-dire du début de la Bible, de la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, il y a une seule fois un homme, on voit une seule fois un homme s'adresser directement à la personne du Saint-Esprit. Avez-vous déjà remarqué que dès la page 1 de votre Bible, du premier couvert jusqu'au deuxième couvert, qu'il y a seulement un endroit dans la Bible où un homme s'adresse directement à la personne du Saint-Esprit? Laissez-moi vous poser une deuxième question. Avez-vous déjà remarqué que des 650 prières répertoriées dans la Bible, une seule est adressée à la personne du Saint-Esprit? Je pense que ces deux questions-là devraient nous porter à réfléchir ce matin. Et pour nourrir notre réflexion, on va lire ensemble le seul texte biblique où l'on voit un homme s'adresser directement à la personne du Saint-Esprit. Et remarquez bien que c'est Dieu lui-même, écoutez bien ce que le contexte, on va le lire dans quelques instants à l'écran, c'est un contexte bien particulier où Dieu va parler à son prophète. Il va dire à son prophète ceci, « Parle à l'Esprit et dis-lui telle chose. » Et c'est ce que le prophète va faire. Et les choses vont prendre place. C'est comme si Dieu, dans un endroit dans la parole de Dieu, au lieu que ce soit lui qui parle directement à l'Esprit pour qu'il fasse, c'est comme l'agent exécutif de la Trinité, il va dire à son prophète, « Dis-le à l'Esprit. Toi, dis-le à l'Esprit. Dis ce que normalement, moi, je dirais à l'Esprit. Toi, dis-le à l'Esprit et les choses vont prendre place. » Il y a une exception dans la parole de Dieu, on va le lire ensemble. Et c'est dans le livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Ça nous dit ceci, La main de l'Éternel fut sur moi, dit Ézéchiel, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ézéchiel est en train d'avoir une vision, et Dieu, par l'esprit, l'amène dans une vallée pleine d'ossements humains. Il y a des os partout, des squelettes qui sont là dans la vallée. Morts, évidemment, c'est des squelettes. Il me dit, donc Dieu me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et les eaux reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Le texte qu'on vient de lire est la seule exception, la seule fois où on voit un homme s'adresser directement à la personne du Saint-Esprit. Voyez-vous, frères et sœurs, il y a plusieurs prédicateurs américains particulièrement, et des prédicateurs d'un peu partout dans le monde qui vont nous enseigner que vraiment Jésus, que le Saint-Esprit habite en nous, que Dieu est au ciel et que Jésus est à la droite. Et qui vont mettre beaucoup d'emphase sur le fait de développer l'intimité avec la personne du Saint-Esprit, puisque c'est elle qui habite en nous. Et comme je l'ai dit tantôt, le Saint-Esprit, il a fait la Trinité n'est pas une hiérarchie, elle n'est pas séparée par la distance, ce n'est pas trois personnes séparées, mais c'est une personne. C'est un mystère, la Trinité. On a la difficulté à comprendre ça, puis c'est correct comme ça. Comme je disais hier au Seigneur dans mon temps de dévotion, merci Seigneur d'être assez mystérieux pour pas qu'on ait l'impression d'avoir fait le tour de la question avec toi. Parce que je crois que si on était capable de faire le tour, qu'on avait des réponses à toutes nos questions, comme n'importe quoi d'autre, on se tannerait de toi, puis on essaierait de trouver d'autres choses. Je crois que le mystère autour de Dieu fait en sorte qu'on veut toujours en savoir un peu plus, un peu plus. Donc, plusieurs prédicateurs mettent l'emphase sur, et même écrivent des livres, sur le fait que Dieu est au ciel, Jésus est à la droite et le Saint-Esprit est dans nos vies. Mais ce n'est pas si simple que ça. Jésus nous a enseigné ceci, nous a enseigné clairement que le rôle du Saint-Esprit consiste à diriger l'attention des hommes sur la personne de Jésus. Aviez-vous déjà remarqué que le Saint-Esprit n'attire jamais, je répète, n'attire jamais l'attention sur lui-même? Dans toutes les Écritures, ça nous dit, Jésus parle de l'Esprit en disant ceci dans l'Évangile de Jean, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que Jésus, vous ai dit. » Donc, Jésus est en train de dire, le Saint-Esprit qui habite en vous va vous rappeler ce que moi, Jésus, j'ai dit. Il ne parlera même pas de lui-même. Il va parler de ce que moi, Jésus, j'ai dit. Il dit un peu plus loin aussi, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Ici, c'est Jésus qui parle. Donc, le Saint-Esprit ne rendra pas témoignage de lui-même, ne rendra pas témoignage, il va rendre témoignage de Jésus. Okay? Et un peu plus loin, Jésus enseigne encore à ses disciples ceci. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit me glorifiera, dit Jésus, parce que le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, dit Jésus. C'est pourquoi j'ai dit que le Saint-Esprit prend de ce qui est à moi, Jésus, et qu'il vous l'annoncera. » Donc, Jésus nous enseignait que le Saint-Esprit attirerait toujours l'attention des gens sur lui-même, sur Jésus. Que c'était son rôle, que c'était ce qu'il était appelé à faire en tant que personne de la Trinité, membre de la Trinité. Donc, premièrement, Jésus nous a enseigné clairement que le rôle du Saint-Esprit consiste à diriger l'attention des hommes sur la personne de Jésus. Deuxième chose que j'aimerais faire souligner ce matin, c'est que le rôle du Saint-Esprit consiste également à nous enseigner à prier en disant « Abba, Père ». On peut lire entre autres dans Romains chapitre 8, verset 15, « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père. Donc, l'esprit d'adoption, la Bible nous dit qu'on peut être adopté dans la famille de Dieu, qu'on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. On est adopté dans sa famille lorsqu'on se repent de nos péchés et qu'on demande à Christ de venir habiter dans nos vies. Son esprit vient, son esprit d'adoption, et ça nous amène à crier vers Dieu le Père, Abba Père. On peut lire également dans Galates, chapitre 4, verset 6, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie? Lequel crie? Abba Père! » Donc, on le voit à deux reprises, que l'Esprit nous donne, et l'Esprit non seulement veut mettre l'emphase sur Jésus, mais il veut mettre l'emphase aussi, il veut nous amener à prier et à crier vers le Père. Il ne parlera pas de lui-même, le Saint-Esprit. Il va nous amener vers Jésus, nous amener à prier le Père. Lorsque les disciples, un jour, étaient dans un lieu à l'écart avec Jésus, ils ont entendu Jésus prier. Et alors qu'ils l'ont entendu prier, il faisait plusieurs fois qu'il entendait prier, mais là, cette fois-là particulièrement, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un des disciples qui lui a posé une question, c'est « Seigneur, peux-tu nous enseigner à prier comme tu le fais? » Écoutez bien sa réponse. Un des disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. » Jésus leur dit « Quand vous priez, dites Père. Et comme Jésus-Christ lui-même l'a enseigné à ses disciples, j'aimerais vous proposer ce matin. Lorsque vous priez, dites Père. Vous aussi. Jamais dans toutes les Écritures, on nous enseigne et on nous encourage à prier le Saint-Esprit dans toute la parole de Dieu. J'ai fait le tour des 348 passages de l'Ancien Testament qui parlent du Saint-Esprit. Je les ai toutes lues. J'ai regardé tous les textes du Nouveau Testament qui parlaient du Saint-Esprit. Et jamais on ne met l'emphase sur le fait de développer une relation avec le Saint-Esprit. Jamais on ne nous encourage à prier le Saint-Esprit. Écoutez bien, même les chrétiens du premier siècle, dont plusieurs avaient côtoyé Jésus lui-même en chair et en os, ils l'ont vu, ils ont marché avec lui, ils ont mangé avec lui, ils l'ont connu personnellement. Quelque temps plus tard, ils étaient dans un lieu de prière et la parole de Dieu nous rapporte leur prière qu'ils ont priée. Écoutez bien comment ils priaient, les gens qui avaient connu Jésus, le Fils de Dieu. Ça nous dit dans Actes 4, verset 24-31, qu'ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre... » Écoutez comment il parle de Jésus. « Contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Ici, on est en train, là, on est témoin de la manière qu'ils priaient dans l'Église primitive. Ils avaient côtoyé Jésus. Ils ne priaient même pas Jésus nécessairement. Ils priaient le Père. Père, toi qui crées le ciel, la terre, et ton saint serviteur Jésus. Ils savaient que c'était le Fils de Dieu. Ils savaient qu'il était Dieu, mais ils priaient le Père. Dans certains mouvements pentecôtisants, trop d'emphase est mise sur le Saint-Esprit, alors qu'on devrait mettre l'emphase sur Dieu le Père et Jésus le Fils. Je crois que toute église ou ministère qui exalte plus le Saint-Esprit que Jésus va aboutir tôt ou tard au fanatisme. Ils vont prendre à un moment donné une mauvaise tangente. Tout ce qui nous pousse à exalter et à aimer Jésus est bon et saint, S-I-N. Mais quand le Saint-Esprit devient le centre de notre attention, l'église est décentrée et déséquilibrée. Le Saint-Esprit est comme une grande lumière. Un spotlight qu'on dit au Québec, un follow spot. Et c'est le Saint-Esprit qui est cette lumière, il va toujours la diriger sur Jésus afin de le révéler. Là où le Saint-Esprit contrôle la situation, là où le Saint-Esprit règne, là, l'Église dans laquelle il agit et qu'il parle, Jésus est toujours proclamé comme étant la tête, le Saint-Esprit étant simplement son exécutif. On ne peut pas mettre la puissance, les dons et le Saint-Esprit ou quoi que ce soit plus haut que Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Christ et Christ seul doit être le centre de la vie et de l'adoration à l'Église Vie Abondante. Jamais on ne voit d'adoration à l'égard du Saint-Esprit. Mais on voit constamment l'adoration envers Dieu le Père et Jésus le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Dans Colossiens chapitre 1, versets 18 et 19, on peut lire que Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu au Père de faire habiter en lui toute la plénitude, toute plénitude. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ce matin pour dire qu'en toute chose, que Jésus est la première place. C'est-à-dire qu'il soit distingué et nommé au-dessus de tous les autres noms qui peuvent exister sur cette terre. Rappelons-nous que lorsque Jésus est sorti de l'eau, la journée de son baptême, que Jean-Baptiste l'a baptisé dans l'eau et qu'il est sorti de l'eau, ça nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Mais une voix a déclaré ceci, « Voici le Fils bien-aimé, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Saint-Esprit a descendu sur une forme corporelle d'une colombe, mais le centre d'attraction, ce n'était pas la colombe. Le centre d'attraction, c'était l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu. C'était lui qui avait toute l'attention. Le spotlight était sur lui. Jésus a clairement expliqué que quand l'Esprit Saint viendrait habiter dans le cœur des hommes et des femmes, il n'attirerait pas l'attention sur lui-même, mais il mettrait l'accent sur les œuvres de Christ, sur la personne de Christ, il exalterait Christ, il s'effacerait pour laisser la place à Christ, mettre la lumière sur Christ, amener les gens vers Christ et amener les gens à prier Dieu le Père et de crier « Abba », Père, ce qui veut dire « Papa ». L'Esprit nous a été donné par Christ. Je vais relire le texte de Jean 16, versets 13 à 15, avec tout ce que je viens de dire. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit va me glorifier, parce que le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi, dit Jésus, et il va vous l'annoncer. Tout ce que le Père est à moi, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit que le Saint-Esprit prend de ce qui est à moi, dit Jésus, et qu'il vous l'annoncera. » L'Esprit Saint nous a donc été donné pour exalter Christ. Le Saint-Esprit est là dans nos vies pour nous amener vers Christ et nous amener vers le Père, mais jamais pour attirer l'attention sur lui-même. Si vous n'avez pas une attirance vers Christ ce matin, vers Jésus, la personne de Jésus, c'est que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit est dans un cœur humain, chez un homme ou une femme, l'Esprit nous attire constamment vers Christ. Le mouvement provoqué par l'Esprit Saint qui habite en nous nous rend plus proche de Christ, plus profond en Christ, avec une plus grande soumission à la Seigneurie de Christ. Jésus devient le plus important, devient le centre d'attraction, le centre d'attention. Qu'est-ce qu'on peut retirer de tout cela ce matin? C'est que nous ne sommes pas appelés à prier le Saint-Esprit, frères et sœurs. Je rappelle ce que j'ai dit. En posant la question, aviez-vous déjà réalisé que du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, on ne voit qu'une seule place, un homme s'adresser à la personne du Saint-Esprit, et c'est Dieu qui va dire à son prophète, « Je veux maintenant que tu parles au Saint-Esprit à ma place. » On n'est pas appelé à prier le Saint-Esprit, ni à désirer développer une relation privilégiée avec le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est là. Il fait une œuvre extraordinaire. C'est lui qui nous parle de la part de Dieu. C'est lui qui habite en nous. Et il n'y a aucun doute là-dedans. Mais on n'est pas appelé à se tourner vers nous-mêmes quand on prie. Puis Saint-Esprit, montre-moi, Saint-Esprit. Non, c'est Père, montre-moi. Il y a une grosse différence entre les deux. Hein? Quand on dit que le Saint-Esprit est en nous, puis là, on se recroqueville sur nous-mêmes. Puis Saint-Esprit, parle-moi, dirige-moi. Non, non, c'est plus qu'à l'intérieur de nous. Là. C'est pas juste à propos de nous. C'est Dieu le Père, le Créateur de l'univers, celui qui a créé tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut toucher. C'est à lui qu'on s'adresse. Et lorsqu'il veut nous parler, il nous parle par son esprit à l'intérieur de nous. C'est la manière que Dieu a voulu les choses. Mais il faut faire attention ce matin de ne pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire de... Comment je pourrais expliquer ça? Je ne l'ai pas écrit dans mes notes. Là, je suis bloqué. Là. De ne pas apporter d'importance aux détails. Merci. Laissez-moi vous poser avec trois questions pour essayer d'appliquer ce qu'on a vu ce matin. En conclusion, est-ce péché de prier le Saint-Esprit? C'est drôle, hein? Il n'y a pas personne qui ose. Je ne crois pas que c'est péché de prier le Saint-Esprit. Je crois simplement que c'est un manque de connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, comme je l'ai dit, je vous le répète, reprenez votre Bible, prenez tous vos logiciels que vous voulez et étudiez la parole de Dieu. Jamais vous verrez, à part la seule exception qu'on a lue dans Ézéchiel, jamais vous allez voir un homme, une femme, l'apôtre Paul, Jésus lui-même, s'adresser au Saint-Esprit. Nulle part dans les Écritures. Quels sont ceux et celles qui sont d'accord pour dire que c'est ça l'autorité dans cette Église, dans nos vies, c'est ça qui doit dicter notre conduite, notre façon de faire. Et lorsque les gens ont demandé, les disciples ont demandé à Jésus comment on devrait prier, il leur a dit, lorsque vous priez, dites Père. C'est spécial, hein? Jésus était le Fils de Dieu. Jésus faisait partie de la Trinité, puis il n'a même pas dit, priez-moi. Priez-moi. On voit par contre un endroit où on peut prier Jésus, sans problème. Jésus, Dieu, sans problème. On voit Étienne, entre autres, quand il est en train de se faire lapider, puis il va prier le Seigneur Jésus. Aucun problème à ce niveau-là. Mais le Saint-Esprit, son rôle consiste à nous amener vers le Père et vers Jésus. Donc, est-ce péché de prier le Saint-Esprit? Non, c'est simplement un manque de connaissance de la parole de Dieu. Donc, s'il vous plaît, si vous entendez des gens prier le Saint-Esprit, commencez pas à leur dire, « Hey, ça, c'est pas correct, c'est péché. » C'est juste un manque de connaissance. Les gens ne sont pas conscients de cette réalité biblique-là, cette vérité biblique. Deuxième chose, est-ce nécessaire de prier le Saint-Esprit? Non, ce n'est pas nécessaire de prier le Saint-Esprit. Lorsque nous prions, nous sommes appelés à prier le Père. Est-ce que c'est péché? Non. Est-ce qu'on peut prendre des fois, on peut juste dire « Merci Esprit de Dieu d'habiter en moi ». Bien oui, on peut dire merci, de dire « Je suis tellement fier que tu sois là, je suis tellement content que tu sois là ». On peut le faire, mais que notre attention soit dirigée vers le Père. Ce que le Saint-Esprit désire, c'est nous amener vers Jésus, nous amener vers le Père et de crier « Abba, Père ». Troisième question, peut-on attrister le Saint-Esprit en lui consacrant trop d'attention? Je crois que la réponse est oui. Parce que son rôle est très clair et Jésus l'a dit, je vous encourage à relire Jean 14, 15 et 16. Jésus enseigne très clairement son rôle, et son rôle, c'est vraiment pas d'attirer l'attention sur lui-même, mais d'attirer les hommes et les femmes à aller vers Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, c'est-à-dire celui qui a été crucifié sur une croix afin que nos péchés soient pardonnés, afin qu'on puisse passer des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu, qu'on puisse devenir et être adopté dans la famille de Dieu. Comment être saisi par le Saint-Esprit en 2009, frères et sœurs? Si on est vraiment saisi par le Saint-Esprit, je crois qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit va nous amener vers Jésus et vers le Père, constamment, constamment. Et j'ai prié dans cette église en tant que pasteur, nous voulons juste du frais. On veut juste vraiment du frais, juste du vrai. Tout ce qui vient de Dieu, on le veut. On veut absolument rien manquer de tout ce que Dieu a pour nous. Mais en même temps, on ne veut pas partir sur ce qu'on dit au Québec, excusez-moi l'expression pour mes frères africains, mais sur une chire, c'est-à-dire de tellement mettre l'emphase sur le Saint-Esprit qu'après ça, on oublie Jésus, on oublie Dieu le Père. Et là, ça devient comme une genre d'atmosphère, juste on veut vivre des émotions. On ne veut pas juste vivre des émotions, on veut rencontrer Dieu, on veut connaître Dieu, on veut qu'il nous saisisse par son Esprit. Mais on ne veut pas être déséquilibré théologiquement. On veut rester équilibré selon la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne extraordinaire qui est investie dans nos vies. La Trinité vit en nous. Et le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous amener vers Jésus et vers Dieu le Père. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais inviter l'équipe à venir me rejoindre.